Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. J'ai plusieurs fois traité du sujet de la sexualité sur ce podcast, et en particulier de la sexualité féminine, parce que c'est un sujet qui me semble important, central, dans la majorité de nos vies. En tout cas, il est important pour moi, j'espère pour un petit moment. Et aujourd'hui, je reçois Chloé McIntosh, qui est la fondatrice d'une application qui s'appelle Kama, qui aide à mieux comprendre sa sexualité. Et avec Chloé, on rentre vraiment dans le détail de la sexualité, du sexe. Et on va évidemment beaucoup plus loin que la simple anatomie du clitoris, que j'espère toutes et tous vous connaissez aujourd'hui. Et on rentre dans les études de neurosciences autour de la sexualité, du désir. Et donc, c'est évidemment une conversation qui dure un peu longtemps parce qu'on rentre vraiment dans le détail. Et moi, j'ai appris énormément de choses en l'enregistrant. J'espère que vous allez apprendre ici beaucoup de choses. Je pense que oui, même si vous êtes intéressé un petit peu au sujet déjà. Je vous laisse écouter cette conversation qui, j'espère, vous donnera du plaisir. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Chloé.
Hello.
Donc ça fait 25 ans que tu vis à Londres, c'est ça, hein? Donc si tu as des anglicismes, on va dire que c'est normal. On va parler d'un sujet dont on n'entend finalement pas beaucoup de garçons et de filles parler ensemble, ce qui est très dommage, qui est la sexualité. Et entre autres, c'est un sujet qui te passionne, je pense, et tu as créé une start-up dans le domaine qui s'appelle Kama. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ce sujet-là en particulier, après en particulier Made, tu as souhaité passer de Made, donc, qui sont du mobilier, des meubles, et puis passer à la sexualité ensuite?
En fait, j'ai pas eu vraiment une structure de carrière qui a une logique sur papier, parce que j'ai commencé en tant qu'architecte. J'ai travaillé pour Norman Foster ici à Londres pendant 9 ans, et puis après, je suis tombée dans la tech un peu par accident. J'ai rencontré un entrepreneur qui pensait que je pouvais l'aider, donc je comprenais pas comment, mais lui, il avait l'impression que ce que j'avais fait dans ma carrière serait utile. Donc finalement, j'ai bougé de l'un à l'autre. Sans vraiment savoir ce que représentait la tech, ce que j'allais y faire et quelle était l'opportunité, parce que c'était en 98, 99, hein, j'ai commencé un petit peu à toucher là-dessus, et puis j'ai vraiment bifurqué en 2007. Donc, si tu veux, à ce moment-là, la tech, c'était encore très limité. Et on a monté une plateforme, en fait, un agrégateur sur tout ce qui est homeware, hein, donc intérieur, etc. Et c'est là que l'idée de Made est venue. Donc, 3 ans après avoir rejoint cet entrepreneur, hein, qui s'appelle Brent Hoberman, le fondateur de Last Minute, on a monté Made en 2010. Et l'idée, vraiment, c'était de démocratiser l'accès au design. C'est-à-dire que c'est cette idée que la masse n'est pas intéressée à la qualité. Et du coup, on peut vendre des choses de moins belle qualité visuelle, esthétique, etc., sous prétexte que c'est moins cher. Alors qu'en fait, quand il s'agit de design, le bon design ne coûte pas plus cher que le mauvais design. C'est vraiment une question d'intelligence et de praticalité et de comprendre les besoins. Donc pour moi, il y a toujours eu un peu cette relation comment améliorer la vie d'un individu avec pas forcément des moyens importants et de vraiment d'améliorer le niveau de vie et la qualité de vie. Donc là, à ce moment-là, c'était par le design. Après, ce qui s'est passé avec la sexualité, c'est un sujet qui m'a intéressée depuis très très longtemps. Avant même d'avoir des enfants, j'étais curieuse et je me suis rendu compte, en fait, assez vite, et j'étais très étonnée de me rendre compte qu'il n'y avait pas de marque qui vraiment permettait de s'éduquer, de trouver des produits, de trouver des recommandations, de chercher même des personnes dans l'industrie qui pouvaient aider à traiter certains sujets. C'est finalement une industrie qui est complètement opaque, en ligne en particulier. Et je me suis rendu compte au cours des années que personne, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou dans le reste du monde, pouvait me donner le nom d'une marque qui était une marque de référence pour tout ce qui était sexe. Moi, j'appelle ça sex, love and intimacy, parce que c'est vraiment les trois piliers qui m'intéressent. Donc, tout ce qui est intimité, relationnel, par rapport à soi-même et aux autres. L'amour, le sujet de l'amour, qui est un sujet très complexe parce qu'on opère encore avec des modèles qui datent de très, très, très longtemps. Tout ce qui est relation romantique en particulier. Et bien entendu, la sexualité. Et donc, à ce moment-là, en tant qu'un peu entrepreneur dans cette un peu de vue de changer les choses, je me suis dit, il y a une opportunité énorme dans ce secteur-là. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, en fait, en parallèle de ma carrière. C'était un sujet qui m'intéressait. Je lisais beaucoup. Je rencontrais beaucoup de gens. J'ai interviewé des porn stars. J'ai parlé avec des producteurs. J'ai fait vraiment beaucoup de choses diverses en vue de m'informer là-dessus. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte à travers ma carrière dans la tech, parce que je parlais avec des VC, je parlais beaucoup avec la community tech, et je leur demandais, mais pourquoi ce sujet n'est pas discuté dans les summits? On va dans des conférences qui parlent de toute la technologie, et tout ce qui est intimité, sexualité, n'est pas mentionné, alors qu'on sait que le porn lui-même attire 30% du trafic mondial. Énorme polarisation. Donc, il y avait une sorte de gros trou. Discussion n'existait pas, l'innovation n'existait pas vraiment, et en tant que consommateur, bah finalement, on n'a pas eu une évolution disruptive positive grâce au digital, à part le porn finalement. Et la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est que quand le porn est devenu très 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 disponible, quelque chose qui était vraiment accessible à tout le monde. Ça a créé une réaction assez foudroyante auprès du reste de l'industrie qui a classifié le sexe en tant que vice. Donc, comme tu le sais, en tant que VC, il y a un certain nombre de secteurs comme gambling, l'herbe, enfin tout ce qui est drogue, etc., alcool, qui font partie des secteurs vice. Et du coup, souvent, ils ne peuvent pas investir dans ces secteurs-là. Et là où il y a vraiment eu un problème un peu systémique, c'est que c'est pas sexe, qui est quand même la raison pour laquelle on est tous sur cette planète, qui aurait dû être classifié en tant que vice, c'était le porn lui-même. Et donc, ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'il n'y avait aucun investissement possible dans un secteur. Donc, du coup, ça a complètement mobilisé, ça a gelé, en fait, toute cette industrie. En termes d'innovation, en tant qu'entrepreneur, tu n'avais aucune opportunité de lever de l'argent. Donc, tu ne peux pas lever de l'argent, tu ne peux pas changer quoi que ce soit. Et l'autre problème, c'est que les plateformes de distribution, donc Facebook, Twitter, Tumblr, la majorité... Voilà, Instagram n'existait pas à ce moment-là, mais finalement a pris la même position de bloquer. Et de bloquer avec un certain, quand même, niveau d'hypocrité, parce que de couvrir les tétons avec un petit peu de couleur, ça ne rend pas les choses plus ou moins sexuelles. Presque plus, finalement. Donc, il y a eu une approche, je dirais, assez radicale. On rejette tout le sujet. On ne veut pas le traiter. On ne veut pas être associé. Et des mesures, finalement, qui sont assez mal organisées. Parce que quand on est dans ce secteur aujourd'hui, sur ces plateformes-là, on ne peut pas s'exprimer. Même si on fait quelque chose de très positif, qui va aller dans le sens de l'évolution, d'amener plus de sécurité, finalement, pour les gens, on n'est pas capable, au niveau algorithmique, de reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et ça, c'est le problème qui s'est passé, c'est que quand on bloque ce qui est pas bon, on bloque ce qui est bon. Et finalement, l'industrie n'a pas eu l'opportunité d'évoluer. Donc, c'est une opportunité phénoménale parce qu'on se retrouve avec un gros secteur quand même de notre santé, de notre bien-être et notre style de vie. Donc, c'est tout ce sujet de sexualité relationnelle, etc., qui n'a pas finalement eu de transformation digitale, ce qui est assez unique parce que c'est rare des secteurs qui n'ont pas été comme ça complètement retransformés dans ces 10 dernières années. Donc pour moi, il y avait une opportunité super stratégique et deux, il y avait une opportunité en termes de mission de mon côté parce que je pensais que c'était un sujet super intéressant, c'est un sujet dont on ne parle pas. Il y a un gros problème aussi dans la mesure où le média, en fait, on médiatise une sexualité très ouverte sur son Instagram, on se présente très très à l'aise sexuellement, ouverte, fluide, etc. Et souvent, ce qui se passe finalement au niveau intime, personnel, c'est qu'il n'y a pas autant de succès dans les relations, c'est que les gens ne sont pas finalement très à l'aise sexuellement et qu'il n'y a pas vraiment de conversation. Et du coup, ta satisfaction sexuelle par rapport à ma satisfaction sexuelle, je n'ai aucune idée comment l'évaluer. C'est-à-dire que toi, tu me dis ma sexualité 0 à 10, bah, elle est à 7, je suis plutôt content. Moi, je te dis bah, la mienne, elle est à 7, mais on n'a aucune idée. En fait, il n'y a aucune évaluation, il n'y a aucun point de référence pour savoir si... Alors, quand ça va bien, mais quand ça ne va pas bien, les gens se retrouvent très, très, très isolés. Donc, j'ai toujours pensé qu'il y avait juste une grosse opportunité de démocratiser, encore une fois, un sujet, de rendre un sujet qui est délicat, qui est plein de tabous, accessible et qui peut être discuté à toute table, dans tout contexte, finalement. C'est un peu l'ambition.
Et effectivement, parce que aujourd'hui, la sexualité, en fait, on se forme beaucoup à travers le porno. Et en même temps, le porno, c'est une sexualité qui est d'abord hyper masculinisée, en tout cas machiste, qui est pas forcément une sexualité qui fonctionne pour tout le monde, qui est pas, enfin, en tout cas, les gens ne font pas vraiment ça dans la vraie vie, ou en tout cas pas de cette manière-là. On ignore un petit peu le désir de la femme. Enfin, il y a énormément de choses qu'on retrouve pas dans le porno. Et du coup, ça crée un problème. Alors, il y a ce premier problème-là, évidemment. Et puis, il y a un deuxième souci dont on va parler ensemble, c'est la découverte de son propre corps, en fait, et qui est évidemment un sujet majeur, puisque dans le porno mainstream, en tout cas, qui est disponible en ligne, c'est souvent avec à minima deux partenaires. T'as assez rarement des cours, entre guillemets, de masturbation, finalement.
Alors, le premier sujet, pour moi, est très intéressant parce que j'ai beaucoup suivi l'évolution de tout ce qui est porn, justement, pour comprendre. Parce que l'avantage aussi de ces sites, hein, en particulier Pornhub, c'est qu'ils publient tous les ans un rapport extrêmement détaillé qui rassemble, en fait, en termes d'infographique, hein, tout ce qui se passe sur leur plateforme. Et parce que c'est un pourcentage tellement important de la population, ça donne, en fait, une certaine un snapshot, en fait, de où sont les gens quand il s'agit de sexualité. Alors après, il faut prendre ça avec un peu de nuance.
Bien sûr.
Mais ce dont on s'est rendu compte sur ces chiffres-là, c'est que donc les audiences de plus en plus jeunes, bien entendu, vont sur ces plateformes. Il faut savoir que dans les années 80, par exemple, il y avait du porn, mais c'était des films. Il y avait un investissement, donc on allait voir un film. On savait qu'il y avait un côté fantaisiste dans la représentation du sexe. Il y avait quelque chose qui était un petit peu extrapolé. C'était pas du sexe régulier, sinon ça serait pas intéressant d'aller voir ça au cinéma. Mmh. Et quand le porn est devenu gratuit, en fait, l'argent de la production a disparu. Et de plus en plus, des choses qui sont en fait plutôt extrêmes et qui sont donc vraiment le côté porn, donc le style porn, donc quelque chose qui n'est pas forcément recréé en vie réelle, est devenu visuellement très réel. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus vraiment la différence. Donc un jeune qui n'est pas au courant du tout de cette évolution, qui va sur une plateforme et qui regarde un clip, pour lui, c'est presque amateur porn. C'est des gens, ils font ça vraiment réel. Il ne peut pas vraiment voir la différence entre ça et quelque chose qui se rapproche plus de sa réalité. Donc ça, c'est le premier problème. La responsabilité des plateformes, c'est de pouvoir vraiment présenter à ses utilisateurs ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est ce qu'ils ne font pas. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème. Parce que du coup, on a des modèles de référence qui ne sont pas réalistes et qui finissent par créer des problèmes très importants en termes de... tout ce qui est en anxiété de performance, par exemple, même chez les hommes. Parce que quand on modèle son approche sur le porn, on se dit, mais je suis incapable de faire ça, surtout un jeune qui a 18, 20 ans, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, d'un côté, on a des hommes qui sont présentés d'une façon pas du tout réaliste. Et de l'autre côté, c'est vrai que très souvent, on a eu des femmes assez passives, souvent allongées sur leur dos et en attendant que les choses se passent, avec beaucoup d'expressions vocales qui ne sont aussi non plus pas du tout réalistes. Donc, on se retrouve après dans la vie réelle avec des filles qui font beaucoup de bruit, mais finalement qui ne sont pas très, très en connexion avec leur plaisir. Mmh. Et on est plus en acte. Les gens font baise en imaginant qu'il y a des caméras dans la pièce et comment à quoi ça ressemble. Parce que forcément, quand tu es dans le porn, c'est filmé pour la caméra. Donc, il n'y a pas beaucoup de contact. Parce qu'au moment où il y a du contact, on ne voit plus rien. Donc, on se retrouve dans une expression de la sexualité qui est disconnectée, qui est pas intime, qui est très répétitive et qui est expressive, mais d'une façon qui est finalement très loin de la réalité. Donc, ça, c'est vrai que ça, c'est la problématique. Ce qui s'est passé depuis les 5 dernières années, et de plus en plus, c'est tout ce qui est amateur porn. Donc, c'est les webcams, OnlyFans, hein, qui est quand même un site qui prend une insurgence extraordinaire en ce moment. Et c'est très intéressant pour moi parce que c'est devenu une source, en fait, pour mes études de marché en particulier. Un très nombre de jeunes femmes qui, en fait, se masturbent, elles se filment, elles mettent ça entre leurs jambes et elles se masturbent pour elles-mêmes. Et là, il y a en fait des choses très intéressantes à apprendre parce que on découvre des techniques qui sont surprenantes que nous on n'a pas appris sur notre propre corps parce que on n'est pas rentré par là avec la même perspective. Et finalement, en fait, il y a un apprentissage intéressant à ce niveau-là. Donc même moi là dans la structure de ce que je fais aujourd'hui où on est vraiment dans la sexualité qui j'irais de connexion avec soi-même, où on commence avec la connexion avec soi-même, comme tu le disais, où vraiment l'idée, c'est que en mesure de se connaître et de pouvoir se présenter, de pouvoir recevoir ce qu'on veut, finalement, de quelqu'un d'autre, il faut savoir en premier interagir avec son corps. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que là, de nouveau, il y a une évolution, comme toujours, je dirais plutôt positive, dans la mesure où l'amateur porn, finalement, va commencer à nous donner une représentation réelle de ce qu'est le sexe. Et là, du coup, on est capable de comparer, en tant qu'utilisateur, quelque chose qui est finalement forcé, créé, un peu théâtrical, et quelque chose qui est beaucoup plus de près de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez positif qui s'est passé, qui va commencer à donner une mesure un peu plus, objective de la chose. L'autre chose à savoir, c'est que notre génération, ma génération, donc j'ai plus de 40 ans, on a été un peu traumatisés par le porn. Parce qu'on est une génération qui a vu l'avant et l'après. Donc nous, on est un peu cette génération traumatisée d'être en sandwich avec le pré-digital et le post-digital. Et c'est vrai que les jeunes, moi que je parle beaucoup avec des jeunes de 18 ans, le porn, oui, non, ils s'en fichent, ça a toujours été dans leur vie, ils comprennent que c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, ça leur donne des idées et ça va modeler un petit peu leur habitude, mais ils ont pas le même stigma que nous, on a eu sur ce sujet-là. Donc, je pense que ça évolue positivement. On commence à comprendre, finalement, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est la première étape.
Parce qu'en fait, ce qui est assez étrange, c'est que même ce sujet de la masturbation, en particulier féminine, il est quasiment